Aristoteles, Périmnémès, Kayanamnémséos, de la mémoire et de la réminiscence. Qu'est-ce que la mémoire et qu'est-ce que c'est que ce souvenir? Quelle est la cause de ces phénomènes? Entre les parties diverses de l'âme, quelle est celle à laquelle se rapporte et cette faculté et l'acte qui constitue le souvenir, la réminiscence? C'est ce que nous avons cherché. En effet, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont de la mémoire et qui se ressouviennent par réminiscence. D'ordinaire, ce sont les esprits lents qui ont le plus de mémoire. Mais ceux qui se ressouviennent avec le plus de facilité et ont le plus de réminiscence, ce sont les esprits qui sont vifs et s'instruisent sans peine. Voyons d'abord quels sont les objets auxquels s'applique la mémoire, car c'est un point sur lequel on se trompe assez souvent. En premier lieu, on ne peut se rappeler l'avenir. L'avenir ne peut être l'objet que de nos conjectures et de nos espérances, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse y avoir une science de l'espérance, nom que parfois on donne à la divination. La mémoire ne s'applique pas davantage au présent. C'est l'objet de la sensation, car la sensation ne nous fait connaître ni le futur ni le passé. Elle nous donne le présent et pas autre chose. La mémoire ne concerne que le passé, et l'on ne peut jamais dire qu'on se rappelle le présent quand il est présent. Par exemple, qu'on se rappelle cet objet blanc au moment même où on ne le voit, pas plus qu'on ne se rappelle l'objet que l'esprit contemple au moment où on le contemple et où on le pense. On dit seulement qu'on sent l'un et l'autre, qu'on sait l'autre. Mais lorsque, sans la présence des objets eux-mêmes, on en possède la science et la sensation, alors c'est la mémoire qui agit. Et c'est ainsi qu'on se souvient que les angles du triangle sont égaux à deux droits. Tantôt parce qu'on a appris ce théorème ou que l'intelligence l'a conçu, tantôt parce qu'on l'a entendu énoncer ou qu'on en a vu la démonstration ou qu'on l'a obtenu de telle ou autre façon pareille. En effet, toutes les fois qu'on fait acte de souvenir, on se dit dans l'âme qu'on a antérieurement entendu la chose, qu'on l'a sentie ou qu'on l'a pensée. Ainsi donc, la mémoire ne se confond ni avec la sensation, ni avec la conception intellectuelle, mais elle est ou la possession ou la modification de l'une des deux, avec la condition d'un temps écoulé. Il n'y a pas de mémoire du moment présent dans le moment même, ainsi qu'on vient de le dire. Il n'y a que sensation pour le présent, espérance pour l'avenir et mémoire pour le passé. Ainsi, la mémoire est toujours accompagnée de la notion du temps. Il s'ensuit que parmi les animaux, il n'y a que ceux qui ont perception du temps qui aient de la mémoire. Et ils l'ont précisément par cette faculté même qui leur sert à percevoir. Antérieurement, nous avons parlé de l'imagination dans le traité de l'âme. Nous avons dit qu'on ne peut penser sans image. Et le phénomène qui se passe dans l'acte de l'entendement est absolument le même que pour le tracé d'une figure géométrique qu'on démontre. Ainsi, quand nous traçons une figure, bien que nous n'ayons aucun besoin de savoir précisément la grandeur du triangle décrit, nous n'en traçons pas moins d'une certaine dimension déterminée. De même, en le pensant par l'entendement, bien qu'on ne pense pas à sa dimension, on se le place cependant devant les yeux, avec une dimension quelconque, et on le pense en faisant abstraction de cette grandeur. S'il s'agit de la nature seule des quantités, bien qu'elle soit complètement indéterminée, la pensée se propose toujours une quantité finie, et elle ne pense aux quantités qu'en tant que quantité seulement. On expliquera du reste ailleurs comment il se fait qu'on ne peut penser ni sans la notion du continu, ni sans la notion du temps, même des choses qui ne sont pas dans le temps. Il faut nécessairement que la notion de grandeur et de mouvement nous vienne de la faculté qui nous donne aussi celle du temps. Et l'image n'est qu'une affection du sens commun. Il en résulte évidemment que la reconnaissance de ces idées est acquise par le principe même de la sensibilité. Or, la mémoire des choses intellectuelles ne peut non plus avoir lieu sans image. Et par suite, ce n'est qu'indirectement que la mémoire s'applique à la chose pensée par l'intelligence. En soi, elle ne se rapporte qu'au principe sensible. Voilà bien pourquoi la mémoire appartient à d'autres animaux et n'est pas le privilège des hommes, mais généralement des êtres qui ont les facultés de l'opinion et de la réflexion. Tandis que si elle était une des parties intellectuelles de l'âme, elle manquerait à beaucoup d'animaux, autres que l'homme. Peut-être même ne serait-elle le partage d'aucun être mortel. Maintenant même, elle n'appartient pas à tous les animaux, attendu que tous n'ont pas la notion du temps. En effet, quand on fait acte de mémoire, on sent toujours en outre, comme nous l'avons dit, qu'antérieurement, on a vu, entendu ou appris telle chose. Or, avant et après se rapportent au temps. Ainsi donc, à quelle partie de l'âme appartient la mémoire ? Évidemment, à cette partie de qui il relève encore l'imagination. Les choses qu'en soi, qui en soi sont les objets de la mémoire, sont toutes celles qui ont aussi du domaine de l'imagination, et celles-là ne sont qu'indirectement ces objets qui ne peuvent exister non plus sans cette faculté. Ici, l'on pourrait se demander comment il se fait que la modification de l'esprit étant seule présente et l'objet même étant absent, on se rappelle ce qui n'est pas présent. Évidemment, on doit croire que l'impression qui se produit par suite de la sensation dans l'âme et dans cette partie du corps qui perçoit la sensation est analogue à une espèce de peinture et que la perception de cette impression constitue précisément ce qu'on appelle la mémoire. Le mouvement qui se passe alors emprunt dans l'esprit comme une sorte de type de la sensation, analogue au cachet qu'on imprime sur la cire avec un anneau. Voilà pourquoi ce qui par la violence de l'expression ou par l'ardeur de l'âge sont dans un grand mouvement, n'ont pas la mémoire des choses, comme si le mouvement et le cachet étaient appliqués sur une eau courante. Chez d'autres, au contraire, qui en quelque sorte sont froids comme le plâtre des vieilles constructions, la dureté même de la partie qui reçoit l'impression empêche que l'image n'y laisse la moindre trace. Voilà pourquoi les tout jeunes enfants et les vieillards ont très peu de mémoire. Ils coulent en effet, les uns parce qu'ils se développent, les autres parce qu'ils dépérissent. De même encore, ceux qui sont trop vifs et ceux qui sont trop lents n'ont ordinairement de mémoire ni les uns ni les autres. Ceux-ci sont trop humides et ceux-là sont trop durs. Par conséquent, l'image ne demeure point dans l'âme des uns et n'effleure pas l'âme des autres. Mais si c'est bien ainsi que les choses se passent pour la mémoire, est-ce de cette impression de l'esprit qu'on se souvient ou de l'objet même qui l'a produite? Si c'est de l'impression, on ne se souviendrait en rien des choses qui sont absentes. Et si c'est de l'objet, comment, tout en sentant l'impression, nous rappelons-nous l'objet absent que nous ne sentons pas? En admettant qu'il y ait en nous quelque chose de pareil à un cachet ou à une peinture, comment se fait-il que ne sentant que cette chose, nous en rappelons cependant une autre, et nous ne nous rappelons pas cette chose elle-même? Ainsi, lorsqu'on fait acte de mémoire, on contemple en soi cette impression et on ne se sent qu'elle. Et comment donc se rappelle-t-on pourtant un objet qui n'est pas présent? Ce serait en effet voir et entendre une chose qui n'est pas présente. Mais n'y a-t-il pas une manière d'expliquer comment ce phénomène est possible et comment il s'accomplit. Ainsi, l'animal peint sur le tableau est à la fois un animal et une copie, et tout en étant un et le même, il est pourtant ces deux choses à la fois. L'être de l'animal et celui de l'image ne sont pas cependant identiques, et on peut se représenter cette peinture soit comme animal, soit comme copie d'un animal. Il faut supposer aussi que l'image qui se peint en nous y est absolument de cette même façon, et que la notion que l'âme contemple est quelque chose par elle-même, bien qu'elle soit aussi l'image d'une autre chose. Ainsi donc, en tant qu'on la considère en elle-même, c'est une représentation de l'esprit, une image, et en tant qu'elle est relative à un autre objet, c'est comme une copie et un souvenir. Par conséquent aussi, quand le mouvement de cet objet a lieu, si c'est en tant qu'il est lui, l'âme le sent alors ainsi lui-même, comme lorsqu'une pensée intelligible ou une image se manifeste en elle et la traverse. Et si au contraire, c'est en tant que cet objet se rapporte à un autre, l'âme ne le voit que comme une copie, ainsi que dans le tableau où, sans avoir vu Coriscus en toute réalité, on le considère comme la copie de Coriscus. Mais il y a quelques différences dans cette contemplation que l'âme peut faire. Quand elle considère l'objet comme animal figuré, l'impression ne se présente alors à elle que comme une simple pensée, tandis que si l'âme considère, comme dans le second cas, qui n'est qu'une copie, cette impression devient pour elle un souvenir. Cela explique pourquoi nous ne savons pas toujours très précisément quand des mouvements de ce genre se produisent dans notre âme à la suite d'une sensation antérieure, si c'est bien de la sensation qu'ils nous viennent. Et nous ne savons trop si c'est ou si ce n'est pas un fait de mémoire. Parfois, il nous arrive de croire penser une chose et de nous souvenir en même temps que nous l'avons antérieurement entendue ou aperçue. Et cette illusion a lieu lorsque l'esprit, contemplant la chose seule, se méprend et ne la considère que comme si elle était l'image d'une autre chose. Parfois aussi, c'est tout le contraire qui a lieu, comme l'éprouva Antiphéron Doré, comme l'ont éprouvé bien d'autres qui ont eu des extases. Ils parlaient des images que voyait leur esprit, comme si c'était des réalités, et comme s'ils s'en fussent souvenus. Et c'est là précisément ce qui se passe quand l'esprit considère comme la copie d'une chose, ce qui n'est pas du tout une copie. Du reste, l'exercice et l'étude conservent la mémoire en la forçant de se ressouvenir. Et cet exercice n'est pas autre chose que de considérer fréquemment la représentation de l'esprit en tant qu'elle est une copie et non pas en elle-même. Voilà donc ce qu'est la mémoire et ce que c'est que ce souvenir. Répétons-le. C'est la présence dans l'esprit de l'image comme copie de l'objet dont elle est l'image et la partie de l'âme à laquelle elle appartient en nous. C'est le principe même de la sensibilité par lequel nous percevons la notion du temps. Aristote, de la mémoire et de la réminiscence, chapitre 2. Il ne reste plus qu'à parler de la réminiscence. D'abord, il faut admettre, comme parfaitement démontré, toutes les vérités que nous avons avancées dans nos essais. Ainsi, la réminiscence n'est ni une réacquisition de la mémoire qu'on reprend, ni une première acquisition. En effet, quand on apprend quelque chose pour la première fois ou qu'on éprouve une première impression, on ne peut pas certainement dire qu'on recouvre la mémoire puisqu'il n'y a pas encore eu de mémoire antérieurement. On ne peut pas dire davantage que l'on acquiert alors une première notion, mais c'est simplement après que la connaissance a été acquise ou que l'impression a eu lieu qu'il y a mémoire. Et ainsi, la mémoire n'arrive jamais dans l'esprit en même temps que l'impression sensible. De plus, à l'instant même où l'impression vient tout d'abord de se produire, dans un instant indivisible, et toute récente qu'elle est, l'impression est dans l'être qui l'a subie. Déjà même, il y a science, si on peut toutefois appeler du nom de science cette disposition et cette impression. Bien qu'on puisse dire directement qu'on se rappelle aussi certaines choses que l'on sait, à proprement parler, on ne peut pas faire acte de mémoire, à moins qu'il n'y ait déjà quelque temps découlé. On ne se rappelle actuellement que ce qui n'a pas su ou éprouvé antérieurement, et l'on ne se rappelle pas maintenant ce que maintenant on éprouve. Il est clair encore que se souvenir par la réminiscence, ce n'est pas seulement se rappeler maintenant qu'on a eu dans le principe une sensation ou une impression qu'on a éprouvée. Mais la réminiscence consiste à recouvrer la science ou la sensation qu'on avait eue auparavant, ou bien cet état qui constitue ce qu'on appelait la mémoire, je veux dire, à se ressouvenir de l'une des choses qui ont été dites. Et le souvenir et la mémoire viennent alors à la suite de la réminiscence. Ce ne sont pas du reste des choses antérieures qui se reproduisent complètement de nouveau dans l'esprit. Mais il y a alors une partie des choses qui se reproduit et une partie qui ne se reproduit pas. Car la même personne pourrait très bien deux fois découvrir et apprendre la même chose. Il faut donc faire une différence entre la réminiscence dans ce dernier cas et cette autre réminiscence qui s'applique à un état précédent de l'esprit plus complet que celui d'où l'on part pour apprendre. Du reste, les réminiscences se produisent parce que tel mouvement vient naturellement à la suite de tel autre. Si telle succession de mouvements est nécessaire, il est évident que quand le mouvement aura lieu, il déterminera l'autre aussi. Et si cette succession n'est pas nécessaire, mais simplement habituelle, il est seulement probable que le second mouvement aura lieu après le premier. Il y a du reste des gens qui, en une seule impression qui les émeut, contractent une habitude plus complète que d'autres par une suite d'émotions nombreuses. Il y a aussi des choses dont nous nous souvenons beaucoup mieux pour les avoir vues une seule fois que nous nous souvenons de certaines autres que nous avons vues mille fois. Lors donc que la réminiscence a eu lieu en nous, c'est que nous éprouvons de nouveau quelques-unes des émotions antérieures jusqu'à ce que nous éprouvions l'émotion après laquelle celle-ci vient habituellement. Voilà aussi pourquoi notre esprit recherche ce qui a suivi, soit à partir de tel instant ou de tel autre, soit à partir d'une chose semblable ou contraire, soit même d'un objet simplement voisin. Cet effort de l'esprit suffit pour produire la réminiscence. C'est que les mouvements causés par ces autres choses tantôt sont identiques, tantôt sont simultanés, tantôt même comprennent en partie l'objet qu'on cherche, de sorte que le reste qui a été mis en mouvement à la suite n'est plus que très peu de choses à trouver. Et c'est par ces recherches que l'on provoque la réminiscence. Sans même chercher ainsi, on a parfois la réminiscence quand ce mouvement qu'il nous importe de retrouver se produit après tel autre. Mais le plus souvent, ce mouvement ne se produit qu'après les autres mouvements du genre de ceux dont nous venons de parler. Il n'est pas du tout besoin d'observer comment nous avons réminiscence des choses dès longtemps passées. Il suffit de savoir comment nous l'avons de celles qui sont récentes. Qu'il est évident que le procédé est le même, comme dans le cas où l'on dit la succession des choses sans recherche préalable et sans réminiscence. Les mouvements ne suivent pas une sorte d'habitude, et l'un vient après l'autre. Et ainsi, quand on voudra faire acte de réminiscence, c'est ce qu'on fera, et on n'aura qu'à chercher à remonter jusqu'au mouvement initial, après lequel viendra celui dont on a besoin. Voilà aussi comment les réminiscences sont d'autant plus rapides et plus complètes qu'on remonte jusqu'à l'origine. Car les rapports que les choses ont entre elles, en se suivant les unes les autres, se retrouvent entre les mouvements qu'elles donnent à l'esprit. Les choses les plus faciles à retenir sont celles qui ont un certain ordre, comme les mathématiques. Il y en a d'autres, au contraire, qu'on ne se rappelle que mal et péniblement. Et voilà la différence qui sépare la réminiscence d'un second apprentissage des choses. Pour la réminiscence, on peut aller en quelque sorte de soi-même aux conséquences qui viennent après le premier point d'où l'on est parti. Tandis que quand on ne peut pas avancer tout seul et qu'il faut recourir à autrui, c'est qu'on ne se souvient plus. Souvent, il arrive qu'on est hors d'état de se rappeler et que l'on peut fort bien chercher et trouver. Dans ce cas, l'esprit en est réduit à remuer une foule de choses avant d'arriver enfin à ce mouvement qui amènera à sa suite la chose même qu'il cherche. C'est que ce souvenir par réminiscence, c'est précisément posséder dans son esprit la faculté motrice assez forte, comme on l'a dit, pour qu'on tire de soi-même et des mouvements que l'on a en soi, le mouvement même qu'on cherche. Mais il faut reprendre les choses dès l'origine. Ce qui fait que quelquefois on arrive à se souvenir au moyen de choses en apparence les plus étrangères, c'est que l'esprit passe rapidement d'une chose à une autre. Par exemple, de l'idée du lait, il passe à celle de blanc à air et de air à humidité. Et au moyen de cette dernière motion, il se rappelle l'automne, saison qui était précisément ce qu'on cherchait. On peut dire que le principe général d'où l'on doit partir, c'est le milieu même des choses qu'on veut se rappeler. Parce que si l'esprit n'a pu retrouver le souvenir avant ce point, il le retrouvera en arrivant à ce milieu. Ou bien c'est qu'il ne pourra plus le retrouver à une autre source. Supposons donc que l'on pense à cette série A, B, C, D, E, F, G, H. Si l'on ne se rappelle pas quand on est à G, H, on se souviendra quand on sera à E. En effet, de, on peut remonter à la fois des deux côtés, soit D, soit E. Mais en supposant qu'on ne recherche pas quelqu'un de ces termes, on se souviendra en arrivant à C, si l'on cherche G ou F. Si ce n'est pas encore assez, on se souviendra en poussant jusqu'à A, et toujours de même. Ce qui fait que parfois une même chose excite en nous le souvenir et parfois ne l'excite pas. C'est que l'esprit peut être poussé à plus d'une chose en partant d'un même principe. Par exemple, de C, on peut aller à F ou à D. Si donc le mouvement n'est pas dès longtemps habituel, l'esprit cède à celui qui est le plus ordinaire, parce que l'habitude est réellement comme une seconde nature. Voilà pourquoi nous avons très vite les réminiscences des choses auxquelles nous nous pensons fréquemment. Car de même que par nature, telle chose vient après telle autre, de même aussi l'acte de l'esprit produit cette succession. Et la répétition fréquente finit par faire une nature. Mais si dans les choses de la nature, il y en a qui sont contre nature et d'autres qui viennent au hasard, à bien plus forte raison, ce désordre a-t-il lieu dans les choses qui dépendent de l'habitude et dans lesquelles la nature n'a pas une puissance égale. L'esprit peut donc bien quelquefois s'y mouvoir un peu à l'aventure, dans un sens ou dans l'autre, surtout quand on s'éloigne d'un premier pont, et celui-là un autre. Voilà comment, quand c'est un nom, par exemple, qu'il faut se rappeler, on en trouve un qui lui ressemble et comment l'on estropie celui qu'on cherchait. Telle est donc l'explication de la réminiscence. Ce qu'il y a de plus important ici, c'est d'apprécier le temps, soit d'une manière précise, soit d'une manière indéterminée. Admettons qu'il y ait quelque chose dans l'esprit qui discerne un temps plus long et un temps plus court. Il est tout simple qu'il en soit ainsi, comme pour les grandeurs. Ainsi l'esprit pense les choses qui sont grandes et éloignées. Il ne faut pas pour cela que la pensée s'étende au-delà d'elle-même, comme on prétend dans quelques théories que s'étend la vision. Parce qu'en effet, l'esprit peut penser tout aussi bien ces choses, même quand elles n'existent pas. Mais l'esprit agit par un mouvement proportionnel, parce qu'il y a dans la pensée des hommes et des mouvements semblables à ceux des objets. Quelle différence y aura-t-il donc quand l'esprit pensera des choses plus grandes? Est-ce qu'il pense ces choses-là même, ou en pense-t-il de plus petites? Toutes les choses du dedans ont beau être plus petites, elles n'en conservent pas moins leur proportion avec celles du dehors. Il est possible peut-être que, de même que pour les figures, l'on peut établir des proportions, mais toujours dans l'esprit, de même ces proportions s'appliquent à des distances de temps. Prenons un exemple. Si l'esprit se meut suivant BE, AB, il décrit la ligne AD, car AC et AD sont proportionnels à AB et BE. Et pourquoi donc l'esprit décrit-il plutôt CD que FG? Est-ce parce que AC est à AB comme KH à KM? Ainsi donc, l'esprit se meut aussi suivant ses lignes en même temps. Mais si l'esprit veut penser à FG, il pense semblablement à BE, et il pense à KL au lieu de HI, car ces lignes FGBE sont entre elles comme FA et ABA. Ainsi donc, quand le mouvement de l'objet est simultané à celui du temps, il y a dès lors acte de mémoire. Que si l'on croit faire cette coïncidence, bien qu'on ne la fasse pas réellement, on croit réellement aussi se souvenir, car on peut bien se tromper et s'imaginer se souvenir, quand vraiment on ne se souvient pas. Mais quand on fait acte de mémoire, il n'est pas possible de ne pas le croire et d'ignorer qu'on se souvient, puisque c'est là précisément ce qui constitue le souvenir. Mais si le mouvement de l'objet se fait dans le mouvement du temps, ou à l'inverse, celui-ci sans celui-là, alors on ne se souvient point. D'ailleurs, le mouvement du temps est de deux sortes. Parfois, on ne se rappelle pas les choses avec la mesure précise du temps. Et par exemple, si on a fait telle chose il y a 3 jours, on se rappelle seulement qu'on l'a faite dans un temps quelconque. Parfois aussi, l'on possède exactement la mesure du temps. Mais cette mesure n'est pas nécessaire pour qu'on se souvienne des choses. Et en effet, lorsqu'on se rappelle les choses sans la mesure du temps, ordinairement l'on dit qu'on s'en souvient bien, mais qu'on ne sait plus quand elles ont eu lieu. C'est que l'on ne s'en passe ce quand par une mesure suffisamment précise. On a dit précédemment que ce n'étaient pas toujours les mêmes hommes qui avait de la mémoire et de la réminiscence. La mémoire diffère de la réminiscence, autrement encore que par le temps. Ainsi, beaucoup d'animaux, sans compter l'homme, ont de la mémoire, tandis que parmi tous les animaux connus, la réminiscence n'appartient, on peut dire, qu'à l'homme tout seul. La cause de ce privilège, c'est que la réminiscence est une sorte de raisonnement. Quand on a une réminiscence On fait ce raisonnement qu'antérieurement on a entendu, vu ou éprouvé quelque impression de ce genre. Et l'esprit fait alors une espèce de recherche. Mais cet effort n'est possible qu'aux animaux que la nature a doués de la faculté de vouloir. Et vouloir est bien aussi une sorte de raisonnement, de syllogisme. Ce qui prouve bien que cette faculté dépend en partie du corps et que la réminiscence est une sorte de recherche que fait l'esprit dans l'image que le corps lui a transmise, c'est que quelques personnes se troublent tout à fait quand elles ne peuvent se ressouvenir de quelque chose. Et tout en voulant cesser d'appliquer leur pensée à cette recherche et de ne plus faire acte de réminiscence, elles sont tout à fait incapables de s'arrêter. C'est surtout ce qui arrive aux gens mélancoliques, précisément parce que les images agissent beaucoup plus sur leur esprit. Ce qui leur fait perdre la faculté d'arrêter leur réminiscence, c'est que, comme ceux qui ont lancé un train ne peuvent plus le rappeler, de même quand l'esprit fait effort pour une sorte de réminiscence et qu'il cherche péniblement, il émeut aussi quelque organe corporel qui souffre de cette affection. Ceux qui alors se troublent le plus sont ceux qui ont au siège de la sensibilité quelque humidité, car cette humidité ne s'arrête pas aisément quand une fois elle a été mise en mouvement. Et elle ne cesse de s'agiter que quand l'esprit atteint la chose qu'il cherche et que le mouvement suit son cours régulier. Voilà pourquoi, quand la frayeur et la colère ont été une fois excitées, leur réaction même les empêche de s'arrêter. Mais elles réagissent à leur tour contre ces mêmes organes qui les ont excités. La réminiscence alors affecte l'esprit, à peu près comme ces mots, ces chants et ces discours qu'on a eu trop souvent à la bouche et qu'on surprend longtemps à chanter et à dire sans même qu'on le veuille. Il faut remarquer encore que ceux qui ont les parties supérieures du corps trop fortes et qui ressemblent aux nains ont moins de mémoire que ceux qui sont d'une conformation contraire parce qu'ils ont un grand poids sur le siège de la sensibilité et que les mouvements qu'elles reçoivent ne peuvent pas demander leur origine, mais qu'ils se perdent et qu'ils ne peuvent plus, au besoin, revenir directement et facilement dans l'acte de la réminiscence. Ceux qui sont trop jeunes et ceux qui sont trop vieux sont sans mémoire à cause du mouvement dont ils sont agités. Ils sont tout absorbés, les uns par le développement qui se fait en eux, les autres par le dépérissement qui les emporte. Et l'on peut ajouter que les enfants conservent des formes analogues à celles des nains assez tard, et pendant bien des années. Voilà ce que nous voulions dire sur la mémoire et sur l'acte qu'elle produit. Nous avons exposé quelle en est la nature, et par quelle partie de l'âme les animaux se souviennent. Nous avons dit également, pour la réminiscence, ce qu'elle est et comment elle se forme.